Alors, ils sont orientés par les hôpitaux, par exemple, donc tous les hôpitaux de la PHP, les médecins. On travaille beaucoup, beaucoup avec les médecins du quartier, car beaucoup de personnes sont suivies par les médecins du quartier, mais ils n'habitent pas dans le 18e. Ils peuvent être hébergés un peu partout, mais leur médecin est dans le 18e. Après, ça reste très ouvert, les associations partenaires, en fait. Parfois, le bouche à oreille. Il arrive aussi par le bouche à oreille.
Les personnes qui viennent toquer à votre porte d'elles-mêmes,
oui.
C'est plutôt des professionnels qui les
non, non, par le bouche à oreille aussi, oui. On accueille tout le monde potentiellement. Après, on n'a pas les capacités d'accompagner tout le monde forcément, mais il y a bien cet accueil de départ qui est inconditionnel et en fonction de la situation de la personne, on peut réorienter vers des structures plus adaptées, par exemple.
C'est vrai, le bouche à oreille fonctionne très bien parce que nous, le public latino qu'on reçoit, au début, il nous a été orienté par Arcat et on avait mis en place, en fait, tout, pour les pièces, pour instruire un dossier d'AME, c'était traduit en espagnol. Il faut qu'il vienne nous voir avec ce papier qui est traduit avec les pièces. Tout ça a disparu parce qu'au fur et à mesure, les personnes, de bouche à oreille, elles disent à un ami, à un copain, une copine, à celui qui vient d'arriver, ils viennent directement chez nous sans passer par l'association Arcat. Pour eux, c'est plus facile d'aller à Arcat. Alors que nous, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui parle espagnol. Heureusement, là, depuis octobre, j'ai un collègue qui parle espagnol, donc on peut les recevoir. Et comme ça, on arrive à avoir une file de 150 personnes par an que sur les permanences du vendredi, les permanences hebdomadaires. Et toutes, elles sont majoritairement de Colombie et de Venezuela. Donc c'est les garçons latinos qu'on reçoit. Et quand on leur demande qui vous a orienté, c'est amigos, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, qui est venu, qui a eu l'aide médicale. Et ça fonctionne très très bien. Le bouche à oreille, c'est chez ce public, ça marche. C'est juste pour appuyer.
Commentaires, questions.
Est-ce que je peux poser une question à Mérine?
Ah, pas bien sûr.
Parce que dans ta présentation, vous faites énormément de choses. Et je me demandais, vous êtes combien dans votre...
Enfin, on n'est pas nombreux, donc justement, on n'est pas nombreux, oui, avec les baisses des financements. Alors, on est en tout 9 salariés, mais pas tous sur le terrain. Par contre, il y a des formateurs qui sont... oui, et ceux-là, en fait, ils sont là depuis plusieurs années, parce que les formations, elles se font sur site ou en intra. C'est-à-dire, il y a des hôpitaux, la sécurité sociale, par exemple, qui veulent former leur personnel, donc on envoie les formateurs chez eux ou en intra, des personnes qui viennent un peu de partout. Ça, c'est Migration Santé qui loue une salle et qui forme ce public. Et sur le terrain, on est 4 personnes. Et il y a des bénévoles aussi. On a des permanences le mercredi d'une écoute psy dans nos locaux, de 16h à 19h. Et puis la personne, elle assure, c'est une personne bénévole, une psychanalyste, elle assure après des permanences au sein d'un foyer de jeunes travailleuses à Paris. Et sur rendez-vous parce que les filles travailleuses, bon, ça, elles ne veulent pas que la psy, ça a une difficulté aussi, elles ne souhaitent pas que la psy soit présente sur le lieu, enfin les visiter, parce qu'elles ne voudraient pas que les copines voient que moi je vais aller voir la psy, donc il va falloir qu'elle l'appelle et elle la voit dans un endroit un peu précis au sein du foyer et que les autres soient au courant. On a peur de ce que du jugement, de ce que va dire l'autre. Pourquoi je vais voir une psy? Ça veut dire que je suis pas malade. Voilà.
Ça, on en parlera. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera. C'est au programme de tout à l'heure. Souviens-toi, oui. Myriam.
Et au sein d'équipe, quels sont les professionnels?
On a psychologue, infirmier. Et moi qui fais de l'accompagnement aussi, et qui met en place des actions de prévention. On travaille avec les structures départementales, c'est-à-dire en complémentarité. Nous, on ne fait pas d'acte. Il n'y a pas d'acte de dépistage, mais on fait appel aux structures habilitées au dépistage.
Et puis, vous participez au Forum Santé.
Oui. Là, les forums santé, bien sûr, toutes les dynamiques locales, on participe aux initiatives des forums, des semaines santé bien-être, des forums même au sein des foyers de jeunes travailleurs, parce qu'eux, ils font des forums carrément à l'intérieur de la structure et c'est le soir. On participe à des brunchs, surtout les dimanches et samedis dans la matinée, dans les foyers de jeunes travailleuses, parce qu'elles ne sont pas là la journée, mais le soir elles ont d'autres occupations, donc on fait plus ça avec les jeunes filles sur Paris, dimanche matinée ou samedi en matinée, pour pouvoir, enfin, pour les dépistages ou un échange sur une thématique. Pour ces jeunes filles, il y a aussi des groupes de parole le soir sur la gestion de stress, de bien-être, la relation homme-femme. C'est des jeunes filles de 25, elles n'arrivent pas encore à gérer le travail, la relation avec l'autre. Et ça, c'est sous forme de groupes de parole qui marchent très bien, qui nous sont demandés. Enfin, chaque année, on les reconduit sur ces sites auprès des jeunes filles.
Fatia, moi, je voulais vous poser une question sur l'histoire du raquin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les heures glorieuses?
Ah, même la naissance, j'y étais pas, mais c'est vrai que ça a évolué. En fait, URACA a été créé en 1985. C'était l'unité de réflexion et d'action des communautés africaines. Au départ, c'était des étudiants d'origine africaine qui étaient dans le quartier de la Goutte d'Or et avaient commencé à faire des actions de sensibilisation autour de la toxicomanie. Parce que l'un d'entre eux était parti en vacances au pays, avait laissé sa chambre à une jeune étudiante, et quand il est revenu, il y avait une personne décédée dans le logement, par overdose. Et ce monsieur qui n'avait rien à voir là-dedans a été emprisonné, en fait. Et ça a commencé comme ça, sur la compréhension, la sensibilisation dans les communautés sur la toxicomanie. Et dans les interventions, les personnes posaient plus des questions sur la nouvelle maladie. Comprenez pas, c'est quoi cette nouvelle maladie dont on parle, avec laquelle on meurt. Et c'était à l'époque le VIH, parce qu'il n'y avait pas de soins, les personnes mouraient. Et l'association s'est très rapidement réorientée là-dessus. URACA s'est inscrit dans une démarche de santé communautaire, c'est-à-dire de tous les pôles d'activité qui ont été mis en place se sont construits, co-construits avec les personnes des communautés africaines, soit touchées, soit juste faisant partie de la communauté, avec le lien vers les professionnels de santé. Donc il y a eu notamment des recherches-actions qui ont été faites. La dernière a été faite en 2009, qui s'intitule « Parole de patient, parole de soignant », et qui est mise en ligne. Hein. Tous les travaux du RACA sont mis en ligne et en format PDF, téléchargeable gratuitement, et qui a mis en lumière des besoins, notamment de formation des professionnels de santé sur les représentations autour de la maladie. Et donc, les différents pôles d'activité ont été mis en place suite à ces recherches-actions. L'Assemblée des femmes a été mise en place suite à ça, par exemple, puisqu'il y avait le constat de femmes qui étaient isolées dans leur logement et n'avaient pas de lieu pour se retrouver. Notamment aussi des documents qui ont été réalisés pour le public et les professionnels pour mieux comprendre la pathologie, avec l'approche culturelle, bien sûr, notamment des petits guides, enfin des petits ouvrages. Le sida, c'est quoi? L'éclaircissement de la peau, c'est quoi? La drépanocytose, c'est quoi? Et là, le dernier, c'est le diabète, qui est fait, rédigé, mais on attend les moyens pour l'imprimer. Mais il est terminé. Oui, et on part toujours du terrain, c'est-à-dire de la parole, des questions des personnes. On confronte avec les soignants, et donc après, sachant qu'on est dans un rapport horizontal, c'est-à-dire soignant et patient ou personne de la communauté côte à côte, avec chacun son expertise et son savoir.
Ces guides, ils sont accessibles ?
Oui, ils sont sur le site internet, oui. On a aussi des exemplaires à Uraka. Donc si vous êtes de passage, vous pouvez venir aussi prendre des exemplaires. Là, on a encore la drépanocytose.
Et en quelle langue sont-ils traduits ?
Ah, ils sont en français. Ils sont juste en français. Oui, parce qu'on n'a pas...
Vous ne faites pas comme le Comed ?
Non, on n'a pas on est vraiment petit. Hein.
Pour le SIDA, je rajouterais justement pour le VIH, nous aussi on a un outil pédagogique, c'est des plaquettes en 13 langues. Donc, qui sont très demandées, en cas de besoin, en fait, on appelle et on fait la demande via le russe, le turc, le portugais, anglais, arabe, français, chinois. Et on a un outil pédagogique qui sert aussi au PMI énormément, les sages-femmes qui demandent ça, c'est une mallette, c'est la contraception, sexualité. En fait, c'est vraiment fait pour les personnes migrantes ou qui ont une barrière linguistique, parce que c'est sous forme d'affiche, il faut maîtriser l'outil. Et on a 12 affiches SIDA aussi, une mallette sur le SIDA. Donc c'est des outils pédagogiques qui ont été actualisés, réédités. C'est un financement du PES, la dernière fois.
Voilà. Maintenant, faut l'oublier là. Ouais. Il n'y a plus de prévention en France. Ouais.
Et les livrets, justement, pour le Comed, je voulais rester parce que le Comed, il y avait des livrets santé.
Mais normalement, vous avez eu le... Ça y est, ils ont eu. La personne du Comed est venue leur parler.
Voilà, donc ça, c'est... Enfin, les anciens. Et je voulais dire, en fait, qu'il y a un travail qui a été fait, auquel j'ai participé avec Santé publique France, Médecins sans frontières et le Comed. Et il y aura une édition, mais ce sera plutôt vers le deuxième semestre. Et ça, vous allez pouvoir peut-être le trouver dans les CMS ou près d'associations. Et parce que, en fait, les personnes qui ont participé à l'élaboration de cet outil, il a été refait, on va dire. Il faut passer par ces associations pour faire la commande, quoi, auprès de Santé publique France, passer par les associations.
Ou par la mairie de Vitry, service promotion de la santé.
Tout à fait, exactement.
Qui a un service documentation. On a la plus belle pédagothèque de toute la France. Parce que... Non, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Parce que l'ARS d'Île-de-France a sabordé tout le réseau d'éducation pour la santé, IREPS, CODES 91, CODES 78. Et si je n'avais pas été dans la boucle, les pédagothèques seraient parties à la poubelle. Et j'ai récupéré, et la municipalité a accepté, ça je dois rendre grâce, parce que ce n'est pas du tout les impôts locaux, les trios qui sont susceptibles. Et donc on a 560 outils et 37 expositions. Donc vous regardez, c'est en prêt gratuit et accompagnement. Accompagnement si vous habitez Vitry, mais prêt gratuit où que vous soyez.
Ah, les ateliers aussi, il faut habiter Vitry pour
Les ateliers Val-de-Marne.
D'accord.
Mais toi, de toute façon, Myriam...
Oui, je sais, parce que j'avais vu le dernier, je n'ai pas pu y assister.
On fait des présentations d'outils pédagogiques aussi.
Par contre, j'ai...